VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 8 janvier 2018, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Arnold Butson, pour commencer les titres.
Au Cameroun, pas de réaction officielle encore à l'annonce de l'arrestation au Nigeria d'un séparatiste des zones anglophones.
Au Sénégal, le gouvernement promet une traque rude et sans répit pour retrouver les meurtriers de 13 personnes en Casamance.
Près de 300 migrants à bord de deux embarcations en détresse, secourus hier au large de la Libye.
En Iran, réunion à huis clos du Parlement sur les manifestations qui ont fait au moins 21 morts dans le pays.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi à l'annonce de l'arrestation samedi soir à Abuja, au Nigeria, de Julius Ayuk Tabe, leader politique de la sécession des zones anglophones du Cameroun. Cette annonce a été faite dans un communiqué signé des responsables de la Southern Cameroon National Council, dont se réclame le mouvement de la République dite d'Ambazonie, que les sécessionnistes veulent ériger en zone anglophone. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap fait le point.
Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Tirouma Bakary, dit attendre les éléments factuels avant toute déclaration officielle à la presse. Selon certains responsables de la Southern Cameroon National Council, les forces spéciales camerounaises auraient pris part à l'arrestation de leur leader samedi soir dans un hôtel à Abuja dès l'entame d'une réunion. La police nigériane les a arrêtés et des hommes attendaient dans un véhicule, a déclaré Mark Barita, un activiste anglophone. Des hommes présentés comme des éléments camerounais, a-t-il affirmé. Des sources de VOA Afrique confirment la présence de policiers camerounais au Nigeria. VOA Afrique a également appris d'une autorité du Cameroun sous anonymat que Julius Tabe et ses collaborateurs n'ont pas encore été extradés au Cameroun. Le Cameroun avait lancé fin septembre 2017 une quinzaine de mandats d'arrêt internationaux contre les membres de la Southern Cameroon National Council. Le 7 décembre à Yaoundé, un émissaire du président nigérien reçu en audience par le président Paul Biya du Cameroun avait affirmé que le Nigeria ne soutient en aucune manière les sécessionnistes anglophones. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Selon l'AFP, un responsable des services de renseignement nigérian a démenti hier l'arrestation de Julius Ayuk Tabe et de ses collaborateurs à Abuja, précisant toutefois que fin décembre, des Camerounais soupçonnés de séparatisme avaient été arrêtés dans l'état oriental de Taraba.
Au Sénégal, le gouvernement a promis hier de ne ménager aucun effort pour arrêter les responsables du massacre de 13 hommes ce week-end dans une forêt de la Casamance. Cette région du sud du pays est en proie à une rébellion depuis 35 ans, mais avait connu une accalmie depuis plusieurs années. Une traque rude et sans répit sera menée pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble. Nous irons jusqu'au bout de l'enquête pour traquer et identifier les auteurs, a déclaré à Ziguinchor, principale ville de la région, le ministre de l'Intérieur, Ali Ngoui Niaï.
La police tunisienne a dispersé hier soir une manifestation contre une hausse des prix entrée en vigueur au 1er janvier, comme prévu par la loi de finances 2018, et que dénoncent des militants et certains partis. Des hausses de prix douloureuses mais nécessaires sont prévues pour réduire le déficit budgétaire, selon le président Béji Caïd Essebsi.
Un étudiant a été tué hier au Darfour, dans l'ouest du Soudan, lors de manifestations contre la hausse du prix du pain, ont indiqué des responsables et des témoins. Des manifestations ont eu lieu dans les régions en conflit du Darfour et du Nil Bleu, ainsi que dans la capitale Khartoum, où des protestataires ont brûlé des pneus et bloqué des routes, la police répondant par des tirs de gaz lacrymogène. Les partis d'opposition avaient appelé à des rassemblements dimanche dans tout le pays.
Près de 300 migrants ont été secourus hier au large de la Libye alors qu'ils étaient à bord de deux embarcations en détresse. Deux femmes ont été retrouvées mortes dans une de ces embarcations, a indiqué la marine libyenne. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Les deux opérations de sauvetage ont eu lieu au large de Graboli et ont permis de ramener 290 migrants à Tripoli. Nous étions à l'arrêt depuis 6 heures du matin quand la marine libyenne est arrivée dans l'après-midi, a indiqué un Malien selon lequel le moteur de l'embarcation a pris de l'eau et s'est éteint. Un des deux canaux était sur le point de couler à l'arrivée des secours. L'an dernier, 3116 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe selon l'OIM. Des efforts menés par l'Italie pour dissuader les migrants de quitter la Libye ont entraîné une baisse de 70% des départs au deuxième semestre 2017 par rapport à la même période de 2016 sur la route dite de Méditerranée centrale, limitant le nombre total d'arrivées en Italie l'an dernier à environ 119 000.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Iran, le Parlement s'est réuni hier à huis clos pour entendre différents responsables et leur rapport sur les manifestations qui ont fait 21 morts dans le pays et aussi pour examiner les conditions économiques à la base de ces protestations. Selon les autorités, la plupart du millier de manifestants arrêtés pendant une semaine de protestations ont été libérés sous caution, mais ceux qui sont considérés comme les principaux instigateurs du mouvement sont entre les mains de la justice qui va sévir sérieusement, selon le procureur de Téhéran, contre eux. Le gouvernement a levé les restrictions sur l'utilisation du site du média social Instagram qui a servi à la mobilisation des manifestants, mais l'accès à l'application Telegram, plus usitée, reste bloqué, ce qui laisse penser que le gouvernement craint de nouvelles manifestations.
Le président américain Donald Trump espère que les pourparlers que Nord-Coréens et Sud-Coréens viennent d'arranger entre eux iront au-delà des Jeux olympiques. Et il a promis que les États-Unis y prendront part au moment approprié. D'autre part, la Maison-Blanche a publié un communiqué hier disant que M. Trump avait discuté par téléphone samedi des derniers développements avec son homologue français Emmanuel Macron et souligné la détermination des États-Unis et de la communauté internationale à parvenir à une dénucléarisation complète de la Corée du Nord.
Israël a publié hier une liste d'organisations qui appellent à son boycott et dont les membres sont interdits d'entrer sur son territoire, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, Nathalie Barge.
Une vingtaine d'organisations y figurent, dont 11 européennes comme BDS France, Palestine Solidarity Campaign ou l'association France-Palestine Solidarité. Aucun pays n'accepterait de laisser entrer sur son territoire des personnes qui veulent lui nuire, a indiqué le ministre de la Sécurité Gilad Erdan, selon un communiqué de son bureau. En mars, le Parlement avait voté une loi interdisant l'entrée en Israël des partisans du mouvement boycott, désinvestissement, sanctions, qui milite en faveur d'un boycott économique, culturel et scientifique d'Israël. Israël accuse le mouvement BDS d'antisémitisme, ce que celui-ci dément. Ce mouvement contribue à augmenter la haine et symbolise tout ce qui est opposé au dialogue, au débat et au progrès, a déclaré le président israélien Reuven Rivlin, indique un communiqué de la présidence.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, argument comparé.
Le fournisseur danois de plateforme de forage Maersk Drilling a annoncé mercredi avoir signé avec la filiale ghanéenne de Tullo Oil un contrat de mise à disposition du navire de forage en eau profonde pour le développement des champs jubilés et tennes. La valeur du contrat n'a pas été divulguée. Au Ghana, le pétrolier local Lekor Limited a signé avec le chinois Sinopec un contrat de relevé sismique 3D dans le cadre de la deuxième phase de développement du champ marginal à Takipo. Le programme vise à porter à 20 000 barils par jour la production du champ qui avoisine actuellement les 10 000 barils par jour. Les études prendront en compte une superficie de 200 km² tant en terre qu'en offshore et devraient démarrer au premier trimestre 2018. Interruption de la distribution de la presse internationale au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Des difficultés pour les distributeurs locaux à honorer leurs impayés auprès du groupe de distribution français Presstalis en serait la cause. Depuis le 22 décembre dernier, le distributeur ivoirien Edipress ne reçoit plus de presse internationale en raison d'un différend financier l'opposant au groupe français. Selon Bertrand Hall, directeur général d'Edipress, cela représente une perte de 25 millions de francs CFA par semaine. Jusqu'à une date récente, Edipress et le Sénégalais ADP étaient toutes deux des filiales de Presstalis.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Kanté, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, le CHAN se rapproche et à 5 jours du début de la compétition, les équipes peaufinent leur préparation.
Oui, et le pays hôte, le Maroc, a eu raison du Cameroun de Rigobert Seng, 3-1. Autre résultat, la Guinée et l'Ouganda se sont quittés sur un match nul 1-1. Même score entre la Libye et la Mauritanie. La Libye et le Burkina Faso vont s'affronter toujours en amical mercredi prochain à Tunis. Le CHAN, c'est du 12 janvier au 4 février au Maroc. Match d'ouverture samedi prochain entre le pays hôte et la Mauritanie. Coup d'envoi à 19h30 UTC.
La Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Ghana 2018.
Une vingtaine de pays vont prendre part au premier tour de ces éliminatoires. Le Mali jouera contre la Sierra Leone. Le Sénégal sera face à l'Algérie et la Libye joue l'Éthiopie à Tunis. Le Maroc reçoit de son côté la Côte d'Ivoire. À Ouagadougou, le Burkina Faso tentera de prendre une meilleure avance devant la Gambie. Toujours pour ce premier tour aller, on aura droit au duel sous-régional entre le Congo et la Centrafrique à Brazzaville. D'autres confrontations sous-régionales sont également attendues. Kenya, Ouganda, Lesotho, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Namibie, Zimbabwe. Les matchs aller auront lieu le 26 février et le retour le 6 mars 2018.
Élisée, le premier test match de la Tunisie en préparation pour la Coupe du Monde 2018 s'est terminé sur une défaite.
Oui, Idrissa et les hommes de Maloul ont été battus hier 1-0 par Al Douaïa sur un but de Youssef Nsakni. Le stage de la Tunisie au Qatar va se poursuivre jusqu'au 20 janvier prochain.
Football toujours, en Afrique du Sud, on a eu droit à la reprise de la phase retour du championnat.
Effectivement, et leader avec 28 points, Mamelodi Sundowns a été battu à Polokwane, 2-3. Défaite également du champion en titre Wisconsin City à domicile 0-1 devant Free State. Victoire par contre d'Orlando Pirates 3-1 face à Baroka. Les Buccaneers 23 points. Partagent la 4e place avec leur rival Kaizer Chiefs tenu en échec par Supersport 0-0. En clôture de cette 16e journée, Chippa United est allé battre Amazulu 2-0. Victoire également de Bloemfontein 2-1 devant Golden Arrow.
Au Sénégal, on jouait la 7e journée de la Ligue 1.
Génération Foot reste leader avec 14 points suite à son succès 1-0 devant Tenguet. Mbou Petite Côte, co-leader avant cette journée, a fait match nul 1-1 à Saint-Louis. L'AS Douane, victorieuse de Nalitali, prend la 2e place. Le duel des académiciens entre Diamba et Dakar Sacré-Cœur n'a connu ni vainqueur ni vaincu. Un nul décevant pour Diamba, toujours avant dernier au classement général, avec 4 points. Et puis, 3e journée au Niger et 3e victoire pour la Gendarmerie Nationale et l'AS Sonidep. Les deux équipes ont battu respectivement Sahel Sporting Club et Nijlek sur le même score, 2-1. Un sans faute donc pour les gendarmes et les pétroliers qui totalisent 9 points au classement.
Le foot aussi, c'est le transfert. Le marché s'est ouvert depuis le 1er janvier dernier. Il y a également des mouvements sur le continent africain.
Oui, et en RDC, Jean-Marc Makusu Mundele est de retour chez V-Club. L'ancien joueur du Daring Club Motéba Pembe serait proche de s'engager avec l'ASV Club, qu'il a d'ailleurs révélé avant qu'il ne signe chez les Immaculés. Aux dernières nouvelles, le joueur du club égyptien Wadi Degla a déjà posé ses valises à Kinshasa. L'officialisation de ce transfert ne va plus tarder. Juste quelques détails à réglé. Et puis en Ligue 1 tunisienne, Sabek Khalifa prolonge jusqu'en 2019 avec le club africain. L'attaquant buteur du club de Tunis ne changera pas d'équipe. Longuement suivi par le club saoudien d'Oud, le transfert a finalement capoté. Khalifa a trouvé un accord avec ses dirigeants selon lequel il a prolongé son contrat d'une saison et demie. Son nouveau bail prendra donc fin en juin 2019. Et puis du basketball pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit à NBA.
Eh bien, les Los Angeles Lakers ont battu, oui, ils ont battu les Atlanta Hawks 132-113. Portland Trail Blazers a eu raison de San Antonio Spurs de justesse 111-110. Idem entre Miami Heat et Utah Jazz 103-102. Phoenix Sun, eh bien, et Oklahoma City. Phoenix a battu Oklahoma City Thunder 114-100. Et puis Dallas Mavericks et New York Knicks, eh bien, New York a battu Dallas 100-96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
revoir avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta engage le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation et à lutter contre l'insécurité dans le centre du pays. Il a demandé au Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une meilleure organisation des élections générales de 2018. Ces annonces ont été faites par le président lors du premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale de Bamako, Kassim Traoré.
Telle une reprise de classe, les ministres maliens étaient à l'assaut du Mont Koulouba. Pour certains, c'est une première, mais plus de la moitié des membres du gouvernement sont habitués à cet exercice. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
La lutte contre le terrorisme et l'insécurité, la paix ne sera durable qu'au prix d'une entente nationale. L'élection comporte plusieurs étapes très importantes. Des résultats fiables sont fortement tributaires d'un fichier électoral crédible, d'opérations efficaces de distribution de cartes NINA, de dépouillement transparent des bulletins de vote et d'une saine gestion des bureaux de vote.
L'actuel gouvernement du Mali compte 36 membres pour 9 femmes. Un gouvernement pléthorique pour un pays pauvre comme le Mali. Docteur Alaye Bokoum, secrétaire au Ligue social du Parti Sadi.
Des ministères doublés, voire triplés. Ministère du développement territorial, ministère des collectivités territoriales, ministère de l'administration territoriale. Je me demande pourquoi faire. Demander à 37-38 personnes de remplir une fonction qui ne sera pas faite. Tout le monde sait que rien n'est fait pour préparer ces élections. La sécurité, on ne peut pas en parler. C'est juste un système qui est mis en place pour empêcher le peuple de comprendre et empêcher le vrai peuple de s'exprimer.
L'équipe de Soumelou Boubé Maïga est soutenue par les partis de la majorité présidentielle, à commencer par les RPM, dont le président est Boukari Traoré.
Nous l'avons clairement exprimé à M. le Premier ministre. Nous soutenons le président Ibrahim Boubacar Keïta et nous l'accompagnons dans toutes ses actions. Ensemble, avec M. le Premier ministre, nous allons envisager des séances de travail un peu plus approfondies autour des questions de gouvernance, autour de la feuille de route du gouvernement de la République.
La situation au Mali est critique, avec une insécurité grandissante au centre du pays. Seri Diallo, de l'ASMA CFP.
La situation sécuritaire appelle à être améliorée. L'accord issu du processus d'Alger attend d'être pleinement mis en œuvre. Les réfugiés attendent la réunion des conditions de retour. L'ordre attend d'être établi. La corruption attend d'être combattue. Les réformes attendent d'être engagées, sans oublier les échéances électorales à venir.
Le nouveau Premier ministre veut rester un homme de conviction, afin de bien mener sa mission. Soumelou Boubé Maïga.
Il n'y a nulle part au monde où on gouverne dans la facilité. Nous devons croire à notre capacité parce que quand vous avez des convictions, vous devez croire que quelles soient les difficultés, vous pouvez les surmonter. Sur les missions qui nous sont confiées dans cette période-là, c'est protéger les Maliens, rassembler les Maliens et être au service des Maliens.
Malgré la ferme volonté du nouveau Premier ministre, le parti Sadi n'est pas rassuré. Docteur Alaye Bokoum.
Déjà, je suis le Boubé Maïga, quelqu'un qui est du système, du WAJ, depuis combien d'années déjà, pour la même équipe. Ce n'est vraiment pas un événement d'ailleurs. Je n'en ai même pas fait un truc. Quand le gouvernement se formait, j'étais encore en Afrique. Je viens d'y passer 20 jours, village par village, et je suis revenu avec des enseignants qui, pendant 24 heures, sont sur le qui-vive, menacés. Ça signifie déjà que le Mali n'existe qu'à Koulouba. Voilà le problème. Et pour moi, ce n'est vraiment pas un gouvernement. Hein.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, l'état d'urgence est en vigueur depuis février 2015 dans la région de Diffa, en proie aux attaques de la secte islamiste Boko Haram. La mesure a été de nouveau prorogée pour le premier trimestre de 2018 par le gouvernement, qui justifie cette décision par la fragile situation sécuritaire dans la région. Sur place, comme a pu le constater notre correspondant Abdulrazak Idrissa, les populations expriment, elles, une certaine lassitude face aux multiples restrictions à la liberté qu'elles subissent.
Les jeunes semblent être les plus affectés par les mesures restrictives de liberté dues à l'instauration de l'état d'urgence dans la région de Diffa. La culture du poivron, principale activité économique, est certes autorisée, mais ils ne peuvent toujours pas utiliser leur kabou-kabou, les taxis-motos de transport en commun. Toute autre activité ou mouvement la nuit sont également interdites. Abakar Issa, président communal des jeunes de Diffa.
Il y a à peu près 13 000 jeunes qui nourrissent leur famille à travers la moto, qui font des taxis moto. Tout ça aujourd'hui sont la main croisée, ils n'ont pas d'activité. En plus, Il y a ceux qui font des petits commerces la nuit et ils sont là bloqués. À partir de 20h, le véhicule ne circule pas. À partir de 22h, les piétons ne circulent pas. Ça fait 3 ans comme ça, on est bloqué. Et les barricades encore toujours sont là dans le riz. Il n'y a pas de changement. Donc pourquoi on a dit vraiment les gens sont fatigués de l'état d'urgence?
Les incursions des éléments de la secte Boko Haram ont certes baissé en intensité au cours de l'année 2017. La vie a repris dans beaucoup de parties de la région. La population collabore par ailleurs dans la sécurisation. Mais est-ce pour autant qu'il faut baisser la garde face à un ennemi imprévisible? Yahya Goudi, secrétaire général du gouvernorat de la région de Diffa.
On ne peut pas croire que quand les gens se plaignent, seulement leur liberté est restreinte. Il ne faut pas qu'on les suive pour dire que tout le monde maintenant n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. C'est une situation qu'on peut régler après. Donc je crois qu'ils n'ont qu'à patienter un peu, avec un peu de patience. Parce que même le fait de collaborer avec les autorités, c'est déjà quelque chose. La fois passée, la population du site de Bundouri, la population voulait à ce qu'elle retourne dans leur village respectif, la commune de Chetmani. Ils sont pressés de retourner. Ils ont dit qu'il n'y a plus beaucoup haram. Mais on ne peut pas prendre ces risques.
La reconduction systématique de la mesure d'état d'urgence aurait tout son sens si une évaluation de son impact, pas seulement sur le plan sécuritaire, est fait en amont, estiment pour leur part les responsables de la société civile au niveau régional. Thierry Mustapha, coordonnateur régional de l'association Alternative Espace Citoyen.
On les reconduit systématiquement, sans aucune évaluation. Alors que les conséquences des mesures d'état d'urgence sont là, évidentes. Les villages ont été vidés, ce qui a permis à ces insurgés de traverser facilement la frontière et faire leurs opérations sur même les sites déplacés. Donc pour moi, même si quelque part, sur le plan sécuritaire, nous avons enregistré des résultats positifs, et sur le plan humanitaire, la situation a été aggravée.
Abdel Razak Idrissa, de retour de Diffa pour VOA Afrique.
Au Bénin, la situation reste tendue entre les magistrats et le gouvernement du président Patrice Talon. Au cœur du litige, le retrait du droit de vote aux travailleurs de certains secteurs, dont celui de la justice. En effet, le 28 décembre dernier, les députés ont procédé au vote de cette loi encore en étude à la Cour constitutionnelle. Pour marquer leur désaccord, les magistrats béninois ont décidé de paralyser les tribunaux sur l'étendue du territoire national jusqu'au retrait de cette loi. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
L'année 2018 démarre sur des notes sombres sur le plan social au Bénin. Ce sont les magistrats qui annoncent les couleurs avec une grève illimitée 5 jours sur 5. Freddy Yawissi est le porte-parole de l'Union nationale des magistrats du Bénin. À travers une déclaration présentée à la presse, il a précisé les circonstances dans lesquelles la décision a été prise.
L'unamable fustige, cette manœuvre consistant à troquer le droit de grève contre les avantages en nature ou en espèces. Ne pouvant tolérer un recul démocratique, elle décide d'observer à compter du lundi 8 janvier 2018 jusqu'au retrait de cette disposition liberticide de la nouvelle loi portant statut de la magistrature, un mouvement de grève de protestation de 5 jours tacitement reconductible du lundi au vendredi.
Il faut dire qu'en 2014, l'Assemblée nationale avait enfin tenté de retirer le droit de grève aux magistrats, prétestant du fait que la Cour constitutionnelle avait affirmé que le droit de grève, bien que fondamental, n'est pas absolu. Aujourd'hui, les travailleurs ne comprennent pas que Joseph Diogbeni, qui à l'époque s'est illustré par des actions musclées pour dire non au vote d'une telle loi, soit aujourd'hui l'instigateur en sa qualité de ministre de la Justice.
Il n'était pas question d'introduire des dispositions retirant le droit de grève aux agents en question. Personne n'en revenait, mais on a compris que, comme nous sommes à l'aide de la ruse et de la rage, le garde des Sceaux a utilisé la ruse pour nous abattre avec rage.
Mais le ministre Joseph Diogbeni, malgré les critiques tendant à le montrer comme un homme sans conviction, capable de remettre en cause ses aspirations les plus profondes, reste imperturbable. Sur la chaîne de télévision nationale, il a exprimé toute la volonté du gouvernement à attacher du prix au respect de la loi si la Cour constitutionnelle l'a déclarée conforme à la Constitution. Vendredi dernier, le tribunal de Cotonou laissait paraître un avant-goût de la grève qui démarre ce lundi. Les usagers déplorent la situation et appellent les deux parties à s'asseoir autour d'une table de négociation au lieu de pénaliser les populations.
Je ne sais pas ce qu'ils revendiquent concrètement, mais à mon humble avis, ce n'est pas trop satisfaisant.
Je crois que leur grève est malvenue. Ceux qui sont programmés, je ne sais pas quand est-ce qu'on va les programmer encore. Ils n'ont qu'à négocier avec le gouvernement.
Si les magistrats doivent détenir le droit de ces détenus pour qu'ils ne soient pas encore jugés au détriment de leurs intérêts, je vois que ce n'est pas trop bien.
Les travailleurs du secteur de la justice ne sont pas les seuls soucis du gouvernement. Toutes les centrales syndicales annoncent une grève générale pour les jours à venir. Seule façon de dire non à la restriction des libertés des travailleurs béninois. De Cotonou, Jeanette Fleur, Dandé pour VOA Afrique.
Deuil national aujourd'hui et demain en République démocratique du Congo en hommage aux victimes des inondations et glissements de terrain qui ont fait 44 morts la semaine dernière. Reportage dans les quartiers les plus sinistrés de Kinshasa avec Thierry Kamboundi de Top FM, de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale de la RDC.
Trois jours après des inondations provoquées par la forte pluie qui s'est abattue sur Kinshasa avec un lourd bilan de 44 morts, les Kinois ont du mal à se remettre d'un tel sinistre. À Selembao, Barumbu, Ngaliema ou encore Limete qui ont enregistré le plus grand nombre de dégâts humains et matériels, la population reste sous le choc. Certaines victimes parmi ceux qui ont tout perdu passent encore la nuit à la Belle Étoile avec femme et enfants.
J'ai passé la nuit à la Belle Étoile depuis hier. Où est l'État? Aucune assistance. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes comme les animaux. J'ai 8 enfants. C'est papa a sauvé les enfants et sa femme. Après l'évacuation, la maison s'est écroulée telle que vous le voyez. Il a juste sauvé les âmes. Que l'État ouvre ses bras pour venir en aide à ces sinistrés. Ils sont sans assistance.
Le gouvernement congolais a décrété 2 jours de deuil national, soit ce lundi 8 et le mardi 9 janvier 2018. Mais ici, en Ngaliema, par exemple, où une importante route menace d'être coupée, on attend plutôt une intervention rapide des autorités.
La route est presque coupée. Les risques d'érosion restent permanents. Il faudrait passer voir pour comprendre l'immensité du dégât. L'État va moins perdre aujourd'hui en réparant cette voie au lieu d'attendre demain. Plusieurs autorités habitent cette avenue. Nous voulons qu'elle soit réhabilitée le plus tôt possible.
Non, honnêtement, c'est affreux. C'est des risques permanents. On a besoin que l'OVD et l'office des routes qui viennent au moins quand même faire le tas de lieux, voir s'il en est.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa a fait ce week-end le tour des quartiers et des familles touchées pour apporter aux sinistrés réconfort et assistance financière. Mais André Kimbuta a également rappelé que c'est la population qui est elle-même à la base de ces inondations et donc de ces pertes en vies humaines.
Je me permets de confirmer le bilan en termes de pertes en vies humaines. Il s'agit de 44 morts. J'ai une recommandation auprès des Kinois. Évitez de construire sur le lit des différentes rivières de la ville. Le statistique prouve à suffisance que la majorité des cas que nous venons d'enregistrer ont construit leurs habitations sur le lit des rivières. Nous serons obligés de démolir toutes ces constructions à l'archive. Nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau puisqu'il y aura d'autres qui ont construit sur le collecteur et le Kinoa ne respecte pas l'assainissement des caniveaux qui servent maintenant des stations d'immondices. Nous vous prions de cesser ce geste qui malheureusement entraîne des conséquences très graves. Ne cherchez pas d'autre cause à cette grande perte. Notre comportement irresponsable justifie ce que nous venons de connaître.
En tout cas, cette situation relance avec acuité le débat sur l'urbanisation de la ville de Kinshasa, où sortir et circuler devient quasi impossible lorsqu'il pleut abondamment. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Craig Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.